le magazine des Nations Unies.
Un premier lot de vaccins de l'OMS contre Ebola, arrivé par Kinshasa mercredi dernier pour freiner la propension de cette maladie qui a ressurgi à Bikoro dans la province de l'Équateur. Et déjà, David Gracely avait fait le déplacement de Madaka pour compatir avec le peuple de cette province et y annoncer le positionnement d'un hélico de la MONUSCO pour l'acheminement des médicaments, des vaccins et autres intrants dans la zone infectée. Les détails dans cette édition. La MONUSCO toujours, en sa section des affaires civiles, renforce les capacités des comités locaux de Mbujimayi sur la résolution pacifique des conflits. Une initiative louable, a déclaré le maire de la ville diamantifère, que vous suivrez dans ce magazine. Enfin, toujours à Mbujimayi, le bureau conjoint Nations Unies aux droits de l'homme dans la lutte contre les violences sexuelles au sein des FARDC. Une session de formation a été organisée à cet effet cette semaine à l'intention des commandants des unités, des magistrats militaires et des officiers de renseignement. Ce sont là les grands points d'actualité de cette édition. Merci de votre fidélité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous. L'Organisation mondiale de la santé en première ligne dans la lutte contre la propension de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Un premier lot des vaccins est arrivé par Kinshasa mercredi dernier. Les détails avec Honoré Missenga Kalala sur cet arrivage, mais aussi l'évolution de la situation.
C'est le ministre de la Santé qui a réceptionné le premier lot constitué de 5400 doses de vaccins dont il a vanté l'efficacité.
Ce vaccin a été testé et toutes les personnes qui avaient été vaccinées avec le vaccin sérotype Zaïre n'ont pas développé de maladie à virus. L'efficacité a été démontrée, ça a été validé par l'OMS et les autorités scientifiques mondiales.
Pour le docteur Oli Ilunga, il va donc falloir mobiliser toutes les ressources disponibles pour épargner un maximum de vies. Par ailleurs, dans un communiqué de presse, l'UNICEF, qui est un des partenaires dans cette lutte, indique que des centaines de travailleurs communautaires sont mobilisés pour jouer un rôle crucial dans la campagne de vaccination contre le virus Ebola prévue, toujours selon le même communiqué, la semaine qui commence dans les zones sanitaires des Bikoro et de Mbandaka. Quant à l'évolution de l'épidémie elle-même, après Bikoro, l'OMS a confirmé un cas identifié de la maladie dans la ville de Mbandaka, ce qui fait un total avec Bikoro de 44 cas des personnes ayant présenté des symptômes de la fièvre hémorragique à virus Ebola, dont 23 décès pour 3 cas confirmés comme dus à cette maladie.
Dans ce même chapitre, il y a eu cette visite de compassion de David Gracely, le représentant spécial adjoint du secrétaire général en RDC, en charge des opérations et de l'état de droit, était à Mbandaka. Et pendant son séjour, David Gracely a rencontré sur place les autorités locales et tenu une réunion avec les partenaires du système onusien, notamment OCHA, l'OMS et l'UNICEF, pour coordonner l'aide et l'assistance à apporter aux structures médicales locales dans la lutte contre Ebola. Écoutons le représentant spécial adjoint au micro de Dominique Olombi-Mongapangé.
Je suis venu ici avec notre équipe pour voir deux choses. D'abord, de travailler avec notre équipe ici à Mbandaka pour leur donner un appui pendant cette période difficile, mais aussi de discuter avec les autorités gouvernementales, les partenaires, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que MONUSCO. De notre côté, nous avons des moyens logistiques importants. On est prêt d'utiliser ça pour soutenir cet effort. Donc on a eu des bonnes discussions avec beaucoup de monde ici où on peut donner un appui qui peut aider de contenir cette épidémie le plus rapidement possible. Donc on veut rester en contact avec la population ici. On veut faire le maximum de notre côté pour aider les partenaires et surtout les autorités pour cette lutte.
David Gracely a par ailleurs indiqué que la MONUSCO venait de positionner un hélicoptère à Mbandaka pour acheminer médicaments, vaccins et autres intrants à Bikoro. Autre nouvelle de cette semaine, c'est avec la section des affaires civiles de la MONUSCO qui a organisé depuis lundi dernier une série d'activités de sensibilisation et de renforcement des capacités sur la résolution pacifique des conflits. Nous sommes à Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. Sont ciblées par cette campagne les organisations de la société civile, y compris féminines, les jeunes et les autorités locales. Le maire de la ville, Ludor Ntumba Chapota, a salué l'initiative de la MONUSCO. Il a dit au micro de Chris Mukand.
Depuis que je suis maire de la ville, ma grande préoccupation, c'est la sécurisation de la ville. donc les biens et les personnes. Chaque jour qui passe, je dénombre quelques cas de vol, quelques cas de menaces à la vie des hommes. Et j'ai toujours pensé que c'est la non-coopération de la population qui permet à ces inciviques à continuer à déranger la population. Donc avec la nouvelle organisation, je crois qu'il y a possibilité que si tout le monde s'implique, parce que l'insécurité zéro n'existe pas, nous pouvons réduire au maximum l'insécurité qui se trouve être très prononcée dans notre ville d'Mbujimayi.
Ce comité peut facilement vous joindre, collaborer avec vous?
Mais on a fait de moi membre de ce comité. Ça veut dire que je suis prêt à coopérer. Vous savez, comme j'ai dit que la sécurité, c'est une de mes préoccupations. Donc, je serai prêt à collaborer avec eux, même à leur donner plus d'opportunités pour que ce comité puisse fonctionner normalement.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Une fois n'est pas coutume, le MAG-UN revient encore cette semaine sur la problématique du stress et propose l'entretien de Sylvie Muiranda Kavira avec Honoré Missenga Kalala. Sylvie Muiranda est conseillère nationale du personnel en gestion du stress dans le système des Nations Unies en République démocratique du Congo. Suivez.
Sylvie Muiranda Kavira, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
C'est quoi le stress?
Le stress, il va être défini de différentes façons. Mais la plus simple définition qu'on puisse donner au mot stress, c'est que c'est une réponse non spécifique du corps face à des menaces qui peuvent être internes ou extérieures à l'individu et qui vont demander à cet individu de développer des mécanismes de gestion afin de surmonter le problème.
Oui, ça c'est une définition un peu scientifique, mais alors quels sont les signes?
Les signes vont être énormes, mais on va les grouper à quatre. Ils vont se manifester sur le plan physique, sur le plan cognitif, sur le plan comportemental et sur le plan émotionnel. Sur le plan physique, il y aura des changements dans le fonctionnement physique du corps. L'individu peut être en transpiration abondante, peut vivre des vertiges qui ne s'expliquent pas, des palpitations du cœur, de la pression artérielle élevée, de la respiration haletante et beaucoup d'autres signes physiques qui vont se présenter mais de façon vraiment inhabituelle et qui devraient normalement nous mettre en alerte.
Quels sont les facteurs ou alors les causes du stress finalement?
Alors le stress, ça pourra peut-être vous étonner, il va venir de plusieurs facteurs qui vont favoriser évidemment l'installation du stress. Les facteurs peuvent être personnels, ça veut dire liés à la propre personne qui subit le stress. Les facteurs peuvent être liés à son travail pour les travailleurs. Les facteurs vont être liés à la famille. Et encore que nous sommes en Afrique où la famille, c'est tout ce que nous avons de plus cher. Et donc, leurs demandes, leurs besoins deviennent nos demandes et nos besoins. Les désirs et le besoin de satisfaire à tout prix le besoin de membres de famille va nous mettre sur une pression. Et cette pression, tant qu'on n'arrive pas à la baisser, on peut vivre un stress permanent. Alors, le quatrième angle, c'est que le stress peut venir des facteurs environnementaux. Nous vivons dans un environnement tel que on vit de l'insécurité, on vit de coupures de courant, des coupures de l'eau, de l'insalubrité, de bruit nocturne. Et donc, un environnement malsain, il est suffisant à lui seul de nous mettre sous stress.
Le stress a certainement des conséquences.
Beaucoup de conséquences et sur plusieurs plans. Généralement sur le plan physique et sur le plan physiologique, sur le plan psychologique aussi. Le stress va nous empêcher de vivre normalement notre vie de chaque jour. Le stress va favoriser plusieurs maladies et ces maladies, on va les appeler des maladies psychosomatiques. Et donc, l'individu sous stress va être victime de maladies qui ne seraient pas normalement maladies si la personne n'était pas sous stress. Et donc, il y aura dysfonctionnement complet de l'organisme. Sur le plan physiologique, il y aura des maladies dues au stress ou favorisées par le stress. C'est par exemple des cancers qui vont être entretenus par le stress. C'est des gastrites avec ulcères qui vont être entretenus par le stress. De l'hypertension qui va être favorisée par le stress et des accidents cardiovasculaires parce que le plus grand des méfaits du stress, c'est l'affaiblissement du système immunitaire. Et donc, toutes les maladies sont les bienvenues dans le corps de quelqu'un qui est sous stress chronique.
Mais le stress, ça peut se gérer quand même.
Le stress, il peut se gérer. Il peut se gérer sur généralement deux plans. Sur le plan personnel, ça veut dire je me décide de ne pas vivre sous stress, et ça c'est à travers des exercices de sport, c'est à travers une bonne hygiène de vie, c'est à travers une bonne hygiène alimentaire, c'est à travers une auto-formation, c'est à travers un regard positif que je porte sur les événements. Je refuse d'être fataliste, je refuse d'être négatif, et sur le deuxième plan, ça va nécessiter l'aide d'une personne, d'une autre personne. Et cette personne peut être un ami, un collègue, un partenaire, un époux, une épouse, ou encore un professionnel de la santé mentale. Et ici, quand je parle de professionnel de la santé mentale, je cite les psychologues cliniciens et les psychiatres. Et donc, lorsque on est en situation de stress et qu'on a besoin de s'en sortir, ce n'est pas bon d'hésiter, de chercher de l'aide. Chercher de l'aide, c'est déjà une preuve qu'on est fort, qu'on est suffisamment fort pour reconnaître ses limites et pour reconnaître le besoin qu'on a de gérer le problème qu'on est en train de vivre.
Est-ce que le recours à des stimulants comme l'alcool, la drogue, la cigarette peut constituer une stratégie de gérer aussi le stress?
Déjà, parlons de la santé et de façon globale. Tous les spécialistes de santé, ils vont vous interdire tous ces stimulants. Ok? Et en gestion de stress, on ne recourt pas aux stimulants pour une simple raison. Les stimulants vont vous donner la sensation du bien-être, mais c'est juste une sensation, c'est pas le bien-être. Et donc, le recours aux stimulants est fortement prohibé, le recours à l'acte agressif aussi prohibé, parce que dans ces cas, vous serez en train d'éviter le stress et non de gérer le stress. Et lorsque vous évitez le stress, la nature, elle est tellement faite qu'elle va vous garder une bonne partie de ce stress quelque part, et ça va continuer à vous détruire petit à petit, et c'est une arme réelle et destructrice.
Alors, quel est le rôle d'un conseiller national en gestion de stress au sein du système des Nations Unies?
Merci beaucoup pour la question. Elle va faire le résumé de tous ces conseils dits. Le conseiller du personnel en gestion de stress pour les Nations Unies, c'est d'abord un spécialiste de santé mentale et qui a pour rôle essentiellement le bien-être du personnel. Et donc, la personne va pas s'occuper du delivery, ça veut dire des résultats que chaque individu va faire individuellement, mais la personne va s'occuper du bien-être de chaque individu personnel du système des Nations Unies, afin que les résultats attendus par les Nations Unies soient positifs et que chaque individu, chaque personnel des Nations Unies soit efficace dans ce qu'il fait. Et donc, le personnel des Nations Unies aura pour rôle de s'assurer que le problème individuel, le problème professionnel n'empêche pas l'atteinte des résultats attendus par tout un système. Nous sommes dans un système avec une très très large diversité, des nationalités différentes, des races différentes, de sexes différents, de
cultures
différentes, des traditions différentes, de coutumes. Ça veut dire qu'on est au carrefour des différentes personnalités et le conseiller du personnel va essayer de concilier toutes ces différences en vue d'atteindre les résultats escomptés par les systèmes. Et ça, c'est mon rôle.
Sylvie Viranda Kavira, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Et cette page nouvelle s'ouvre par Lubumbashi, où la division des affaires politiques de la MONUSCO a lancé la campagne de sensibilisation sur le volet politique du mandat de la mission onusienne en RDC, tel que défini par la résolution 2409 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette campagne consiste en une série de discussions autour de cette thématique et a ciblé les membres des institutions provinciales, en l'occurrence l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Une délégation de la division des affaires politiques du bureau de la MONUSCO Kinshasa a contribué à cette campagne de sensibilisation. Et puis de Lubumbashi, rendons-nous à Kananga, cette fois-ci avec UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population. Cette agence onusienne a remis mardi dernier à 4 structures sanitaires du chef-lieu de la province du Kasaï central 5,5 tonnes de matériel médical. Les équipements remis à titre de don sont constitués notamment par des lits d'hospitalisation, des tables d'accouchement, des matelas et des délateurs utérins. Pour la directrice des opérations de UNFPA en RDC, cette assistance devrait contribuer à la réduction de la mortalité maternelle infantile dans ces structures sanitaires de la ville de Kananga. UNFPA travaille maintenant à s'assurer que toute maternelle évitable soit réellement évitée, a notamment déclaré Madame Elise Kakam. Enfin, restons dans la même région du Grand Kasaï où la Banque mondiale se propose la possibilité d'un projet d'amélioration de la nutrition dans les provinces du Kasaï central et du Kasaï oriental. Révélation du nouveau directeur des opérations de cette institution de Bretton Woods, faite mercredi 16 mai dernier lors d'une visite de travail effectuée à Mbujimayi et dans quelques localités du Kasaï oriental. Selon M. Jean-Christophe Carré, ce projet s'articulerait autour des différents secteurs, notamment les centres de santé pour les mères et les enfants, l'eau et l'assainissement, la protection sociale et l'agriculture.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'invité de ce magazine est le représentant de UNFPA et le Fonds des Nations Unies pour la Population RDC. Le docteur Sene Nunton était il y a environ une dizaine de jours en mission de travail dans la province du Congo central. Objectif de sa mission, se rendre compte de l'état de la coopération entre son agence et le gouvernement provincial du Congo central. Pendant son séjour, le représentant de UNFPA s'est prêté aux questions de Guy Roger Nyampala. Suivez.
Monsieur le représentant de l'UNFPA en RDC, bonjour.
Bonjour.
L'UNFPA a quitté le Congo central en 2011. Quel bilan dressez-vous par rapport au projet et domaine financé par cette agence des Nations Unies à Matadi aujourd'hui?
Bon, nous n'avions plus eu d'antenne physique depuis 2011, mais nous n'avons pas quitté la province. La province, jusqu'aujourd'hui, demeure une de nos provinces d'intervention. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai constaté quand même que les investissements qui ont été faits depuis des années continuent d'exister et même de performer. Je vous donne deux exemples. J'ai vu le centre des jeunes qui a été mise en place depuis 2006, mais qui s'est développé un centre multidisciplinaire où les jeunes peuvent avoir et développer des compétences. J'ai vu des centres d'informatique où les jeunes peuvent avoir pour avoir des services de santé de la reproduction. J'ai vu des cliniques, j'ai vu des laboratoires, mais où les jeunes aussi peuvent venir pour avoir des activités ludiques. J'ai vu un terrain de basketball, mais j'ai surtout vu aussi un podium où il y a des activités de théâtre, mais il y a même aussi des cérémonies de mariage. Donc, véritablement, c'est un centre multidisciplinaire qui attire les jeunes, mais aussi permet aux jeunes d'avoir l'information nécessaire pour éviter le VIH, pour éviter la grossesse précoce et pour avoir vraiment des opportunités de se développer.
Mais au regard de tout ce que vous avez observé sur le terrain par rapport aux interventions de l'UNFPA, est-ce qu'il y a eu des difficultés relevées par rapport au fonctionnement même de ces différentes structures?
Oui, j'ai été voir l'hôpital général de référence de Kiambu, en dehors du centre des jeunes de Matadi dont nous venons de parler. Je viens aussi de la maternité provinciale de Matadi. Je suis très heureux de voir que ces structures continuent de performer, mais il y a aussi des difficultés. J'ai pu noter déjà, par exemple, au niveau de la maternité provinciale de Matadi, que nous devons renforcer le plateau technique, notamment la salle de chirurgie, qui dispose actuellement d'un seul champ opératoire. Et vous voyez, avec le nombre de population que le centre sert, c'est important d'avoir un peu plus de centres et de champs opératoires. J'ai pu noter aussi au niveau de l'hôpital général de référence de Kiambu des besoins en matériel, mais aussi des besoins en médicaments. Et donc, ça tombe bien parce que nous sommes venus avec tout un lot de médicaments et aussi des produits de santé de la reproduction.
En dehors de la ville de Matadi, monsieur le représentant, est-ce que l'UNFPA envisage également d'autres interventions à travers certaines villes du Congo central? Est-ce que c'est en vue?
Tout à fait. Et nous irons à Boma, par exemple, où nous avons trois grandes activités. La première, c'est une activité de renforcement de capacité du plateau technique des structures sanitaires. Nous amenons des couveuses, nous amenons des échographes, nous amenons des tables d'accouchement, nous amenons des lits d'hospitalisation avec matelas, nous amenons des boîtes de chirurgie. Deuxièmement, en termes d'activité, c'est une campagne de planification familiale. C'est une campagne festive où nous allions des activités ludiques des jeunes, de la chanson, des artistes, mais en même temps des cliniques mobiles où il y a de la prestation de services et rapprocher ces services des jeunes. Et enfin, nous allons passer au centre des jeunes de Boma et voir comment les activités s'y déroulent et qu'est-ce que nous pourrons amener. En dehors de Boma, nous irons à Mwanda. Nous irons à Mwanda où nous allons aussi passer par l'hôpital général et voir à ce niveau comment est-ce que nous pourrons atteindre les trois résultats transformateurs de l'UNFP, c'est-à-dire la planification familiale, éviter que les femmes meurent en donnant la vie, mais aussi les violences basées sur le genre. Voilà essentiellement ce que nous allons faire sur tous ces sites dans la province du Congo central.
Monsieur le représentant de l'UNFPA en RDC, avez-vous un message particulier à adresser aux bénéficiaires et aux gestionnaires des projets et domaines d'intervention de l'UNFPA au Congo central?
Il y a un message, c'est un cri de cœur. Le développement est d'abord et avant tout local. Les partenaires peuvent venir donner des appuis, le gouvernement peut venir donner un appui, mais il faut une organisation communautaire. Je vous donne l'exemple de l'ambulance qui a été donnée à l'hôpital général de référence de Kiamvu, qui a des difficultés de fonctionnement. L'ambulance marche, mais il faut du carburant de temps en temps. Et la dotation que reçoit l'hôpital ne suffit pas. Alors, le comité de gestion qui comprend la population locale doit pouvoir contribuer. Voilà le premier message. Le deuxième message de cœur, nous devons être tous ensemble pour éviter que nos adolescentes continuent d'avoir des grossesses précoces qui les empêchent de finir leur éducation et qui les empêchent d'atteindre leur potentiel. C'est ensemble que nous pouvons le faire, parents à la maison, éducateurs à l'école, agents de développement communautaire dans le gouvernement. Et je suis heureux que c'est très compris au niveau de cette province et nous allons pouvoir avoir des succès dans ce sens.
Je vous remercie, Monsieur Senen Unton.
La nouvelle de province du Maguey nous emmène à Mbujima et au Kasaï Oriental, où le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé une session de formation à l'intention des commandants des unités FARDC, des magistrats militaires, mais aussi des officiers de renseignement. Une formation de 2 jours portant sur la lutte contre les violences sexuelles au sein de l'armée. À la clôture de cette session, mardi dernier, le colonel Jean-Daniel Apanza, membre de la commission de suivi de la mise en œuvre des plans d'action de lutte contre les violences sexuelles, s'est exprimé au micro de Chris Mkou.
Les commandants, à la fin de cette formation, ils seront appelés à signer des déclarations sur leur honneur, à prévenir la survenance des violences sexuelles au sein de leurs unités, et ils s'engagent à collaborer avec la justice pour la lutte contre l'impunité. Donc, sur le plan disciplinaire, les commandants seront appelés à sanctionner les présumés auteurs de violences sexuelles et de les déférer devant la justice. À l'issue de cette formation, les commandants doivent d'abord appliquer eux-mêmes les enseignements qu'ils ont appris ici par les changements de comportement individuel qui va influencer l'environnement immédiat dans lequel ils travaillent. Ensuite, ils ont l'obligation d'aller restituer à la troupe pour les rappeler de temps en temps à travers des parades militaires qu'il y a la notion de la prévention et de la lutte contre les violences sexuelles et chacun doit terroriser ces mots d'ordre de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour une armée disciplinée et professionnelle.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
Où en sont avec les retombées de la conférence humanitaire sur la RDC? Question posée à la conférence de presse du 9 mai 2018. Et c'était à Yvon Edoumou, chargé de communication à Otcha. Suivez plutôt la question et la réponse.
Venant vous dire ça pour la RTNC, je m'adresse à Yvon Edoumou. Et Yvon, c'est vrai que ce n'est plus d'actualité, la conférence de Genève, conférence humanitaire. Ma question, c'est de savoir où en êtes-vous avec le gouvernement? Est-ce que vous avez eu le temps d'harmoniser par rapport aux retombées de cette conférence? Aussi, je voulais vous faire remarquer, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'au lancement du plan d'action humanitaire, on avait noté la présence du Premier ministre accompagné de quelques ministres. À la convocation de la conférence, vous les avez exclus. Avez-vous harmonisé avec le gouvernement? Merci.
Je vois que tu aimes bien aller remuer le couteau dans la plaie. Alors, où est-ce qu'on en est par rapport à la conférence? Mais la conférence, comme vous le savez, elle a eu lieu le 13 avril dernier. Elle a récolté plus de 500 millions de dollars. Et en ce moment, comme j'avais dit la dernière fois, le travail de récolte de fonds, en fait, c'est un travail qui se fait durant toute l'année. C'est vrai que de façon exceptionnelle, on a eu cette conférence de Genève, mais en temps normal, la récolte de fonds, les appels que nous faisons auprès des bailleurs se font du 1er janvier au 31 décembre. Donc, c'est un exercice qu'on fait depuis des années. Il n'y a rien de secret dans ce qu'on fait. Donc, il faudra attendre de voir d'ici le 31 décembre qu'est-ce que finalement on a pu récolter sur ces 1,7 milliards de dollars. La deuxième partie de la question, elle se répond d'elle-même. Le gouvernement a dit qu'elle n'allait pas participer à la conférence. Elle n'est pas partie. Voilà.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Wamenya Mugala Gabriel. Par intimité, quelques collègues m'appellent Yagabi ou Papa Gabi. Et par respect, les autres m'appellent Papa Wamenya. Suis marié et père d'une famille nombreuse. Après mes humanités littéraires à Chabunda, dans la province du Sud Kivu, j'ai été enseignant de français dans une des écoles de Kindu, notamment l'Institut Djoudi. Quelques années plus tard, j'abandonne l'enseignement et les tâtonnements pour fixer et orienter mon destin commence. Au fait, j'avais deux rêves. Je voulais soit devenir journaliste, soit un officier militaire. Ce sont là les deux ambitions qui hantaient mon esprit dès le bas âge. Déjà en cinquième primaire, j'imitais un journaliste de la voix d'Isaïr de la station de Bukavu qui s'appelle les Cabo Os Atocho et mes amis d'enfance m'ont surnommé comme ça. Je voulais par la suite devenir un officier militaire. C'est pourquoi, par deux reprises, j'ai présenté les concours de l'école de formation des officiers EFO, mais mon père Wamenya avocat, paix à son âme, à qui j'ai présenté mes résultats de satisfaction au concours, ne l'entendait pas de bonne oreille. Et chaque fois que je voulais échapper à sa vigilance pour rejoindre Kananga, il me suivait et proférait des paroles maléfiques à mon endroit. Les années s'écoulent donc avec le statut d'un diplômé d'État. Dieu merci, l'ISP s'implante à Kindu avec le professeur ordinaire Kimputu, paix à son âme aussi. Pas de choix, et pour relever les défis, je m'inscris dans cette institution universitaire où je sors diplômé en pédagogie appliquée, option français et langue africaine. Quand ton parcours professionnel, engagé en 2003 à Radio Kapi à l'issue d'un concours organisé à Kindu par Philippe Dainden et Jean-Jacques Simon, je suis journaliste et reporter producteur. Après la conférence de rédaction où les sujets du jour sont discutés avec des orientations différentes, les calvaires et les stress commencent. Avant de descendre sur le terrain, ça dépend où je prends contact avec mes interlocuteurs, où je descends carrément sur le terrain à la recherche des informations. Le stress augmente lorsque je dois réaliser un sujet à diffuser sur la chaîne nationale pendant l'édition des midis, surtout lorsque mon interlocuteur me mène en bateau. Les appels intempestifs aussi de la rédaction centrale pour demander soit le chapeau, soit l'élément en entièreté augmente le stress. Mais qu'à cela ne tienne, nous nous dépassons pour donner le meilleur de nous-mêmes au profit des millions de nos auditeurs. En plus des reportages que je réalise, je traite surtout les sujets sensibles qui touchent à la corruption, les détournements des deniers publics, les viols, les exactions et extorsions commises par les forces et services de sécurité. Et cela m'attire la foudre de quelques personnalités politiques en province, tout comme au niveau national. Je présente le journal en Kiswahili. À l'absence du chef d'antenne ou du secrétaire de rédaction, je prends les manettes de la station et de la rédaction. Je reste aussi le réalisateur attitré de la station des Koma. Avant de venir à Radio Kapi, j'ai travaillé comme journaliste à la RTNC après avoir satisfait à un concours organisé par la direction générale de l'OZRT à Kindu en 1995. C'était même le début de la concrétisation de mes rêves qui étaient devenus une réalité. Il n'y avait pas de salaire, on ne savait rien du journalisme, on ne savait rien du métier. C'était la porte d'entrée avant d'arriver à Radio Kapi. Pendant mes moments libres, je prends le temps de beaucoup lire, surtout que je n'avais pas fait formellement le journalisme. L'honnêteté scientifique oblige, et comme la plupart des collègues avec qui nous travaillons à Radio Kapi depuis 2003. Je suis le gars et mémé préféré, c'est comme la pâte de banane qu'on appelle l'ituma au poisson. Et chaque samedi, je marche soit avec mes enfants, soit seul. J'adore le football en sport, j'adore les cantiques religieux ainsi que les anciens succès. Qu'est-ce que je ferai après la MONUSCO? Là, je ne saurais pas prédire l'avenir après la MONUSCO. Seul Dieu qui est le maître des temps et des circonstances pourvoira à mes projets que je ne saurais pas étaler ici.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Quelques rendez-vous des Nations Unies à noter dans vos calepins. Le 21 mai, c'est la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Le 22 mai, c'est la journée internationale de la biodiversité. Et le 25 mai, c'est la journée internationale des enfants disparus. Et c'est déjà la fin de votre magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, mise en onde par Willem Lungamba au reportage et à la réalisation, Honoré Missenga Kalala, à la coordination, Jean-Pierre Elalei Koko, sous la supervision de Martin Sibujangwe. Guy Roger Nyampala, Amatadi, a également collaboré à cette édition. On se dit à très bientôt sur Radio Capi. Ciao.